Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous.
Salut Anaël.
Salut Julien.
Merci à toi d'avoir accepté ma demande.
Bah écoute, merci à toi. Hein. Ça fait plaisir de partager avec des pairs et je pense qu'on vient tous ici pour ça, donc plaisir partagé.
Ouais, super, super. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance, s'il te plaît?
Waouh. Ils savent tes auditeurs à quelle heure on enregistre ou pas?
Non, pas forcément, pourquoi?
Parce qu'il faut être réveillé pour répondre à une question comme ça. Non, écoute, ma définition de la perf, déjà, je pense que la performance, c'est pas forcément la haute performance, déjà, de mon point de vue. Même si j'imagine que la petite heure qu'on va passer ensemble, on va parler que de haute performance. Je suis pas certain que tes auditeurs soient tous dans la haute performance. Et pour autant, bah, tu le sais, hein, par exemple, le public de mes stagiaires dans ma formation, peu font du haut niveau et pour autant tous essayent de rendre leurs sportifs ou sportifs performants. Du coup, si tu veux, pour moi la définition de la performance c'est déjà d'être lucide sur les gens avec qui on travaille, quel est le projet, quel est leur comment dire. Si tu veux, pour moi être performant, j'entendrais souvent, je pense, c'est maximiser le potentiel de l'athlète. Ouais, mais quand tu dis ça, je pense que déjà tu penses très physique, très physio. Or, je pense que tu me contrediras pas en disant que toi, en tant que kiné, que être performant, c'est déjà être en bonne santé, c'est prendre en compte la vie pro perso de l'athlète, savoir dans quelle structure on est, quels moyens financiers on a. Bref, je pense que la liste de courses, ça peut être très longue, et que toi, ensuite, tu essayes de trouver le meilleur chemin par rapport à tout ça pour que ton athlète, ouais, il soit le plus performant possible, mais pas simplement en disant, j'ai fait la planif qui, pour moi, c'est sûr qu'elle va être parfaite parce que c'est la planif d'un ex-champion du monde. Ouais, bah, si tu fais ça sur n'importe qui, elle marchera pas. Donc je pense que, voilà, c'est ça, de mon point de vue, c'est rendre les gens performants en étant humble, lucide, analyste et en sachant se remettre en cause régulièrement. Parce que ce qui marche un jour marchera pas forcément le lendemain et que ça demande d'être à la fois bosseur, curieux et humble, encore une fois. Je me répète beaucoup, mais c'est des mots qui sont importants pour moi. Là, vous entendez peut-être les pattes de ma chienne qui est enfermée dans le bureau avec moi.
Pas de souci, tu veux la faire participer au podcast?
Je pense que on croirait peut-être qu'il y a des claquettes sur le podcast, mais bref, c'est un peu un traquenard cet enregistrement, je suis obligé de le mettre dans mon bureau ce soir.
Pas de soucis, t'inquiète pas. Et est-ce que tu peux revenir alors sur ton parcours, d'où tu viens, quelles études tu as fait?
Ouais, écoute, le début est assez classique, STAPS, début de prépa physique, enfin voilà, un parcours assez classique ou formation d'état dans les fédés dans lesquels j'étais licencié. Donc fort début de carrière assez classique, j'ai bifurqué sur une thèse à l'INSEP auprès de Diane Lemmer et de Christophe Oziertz, enfin qui étaient mes encadrants, pardon. Donc là c'est devenu un petit peu moins classique pour l'époque parce que comme tu le sais, il y a plus de 10 ans, c'était quelque chose d'assez nouveau de faire des sciences du sport, en tout cas en France. Des gens le faisaient très bien en université ou à l'INSEP, mais à la marge, alors que ça devient quelque chose de plus en plus commun. Et si tu veux, à l'époque, faudra pas mal le prendre ce que je vais dire, hein, mais peu en France faisaient ce que faisait Yann. Je pense que voilà, il y avait des Yann, des Martin, des JB Morin, des gens que t'as déjà plus ou moins interviewé pour certains. Oui. Mais c'était assez,
novateur.
Encore une fois, à la marge, hein. Et j'en oublie d'autres, donc je préfère dire que j'en oublie d'autres pour pas que ça soit mal pris. J'en oublie d'autres. Et si tu veux, moi, ce qui m'animait pour le coup, alors je t'ai dit ça tout à l'heure, alors que ce qui m'anime depuis que je suis gamin, c'est la haute performance, même si je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, hein, je le voyais à la télé ou dans le journal. Mais en tout cas, je suis rentré en staff en me disant je veux faire du très haut niveau, enfin je veux bosser avec du très haut niveau et je veux rendre les gens le plus performants possible dans du très haut niveau. Et si tu veux, sorti de mes études à Dijon, les projets de thèse qu'on me proposait ne m'intéressaient pas du tout personnellement. C'était très handicap vieillissement, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant en étant plus âgé pour ma culture G, mais en tout cas qui ne m'animait pas. J'ai découvert Yann un peu par hasard, en cherchant. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie après mon master, et puis bah, de fil en aiguille on s'est mis à bosser ensemble et à bosser sur ce qui moi me bottait, ce côté on fait de la recherche mais de la recherche pour répondre à des questions d'entraîneur. Donc ma thèse était financée par la FF Tri, la Fédération Française de Triathlon, auprès des équipes de France de triathlon olympique, avec une question basique qui était donc là on est sorti des Jeux de Londres pour que les gens resituent. Donc à Londres on fait 4 et 5, ce qui reste le meilleur résultat des hommes en triathlon au niveau olympique. Les filles sont revenues au niveau au dernier jeu et la question de base c'était en gros quand on réussit un championnat du monde ou des jeux c'est parce qu'on s'est entraîné hyper dur et quand on les loupe c'est parce qu'on s'est aussi entraîné hyper dur. OK, super. Qu'est-ce qui a changé? Le carnet d'entraînement c'est le même, en tout cas le contenu. Quel est le problème pour que la pièce tombe d'un coup du bon côté et d'un coup du mauvais côté? Voilà, écoute, la question de base c'était ça. Forcément dans ma thèse c'est central là-dessus, mais ce qui m'a aussi botté à pouvoir travailler avec Yann et quand il m'a de plus en plus laissé les clés du camion, c'est que si tu veux, mon job à l'époque se divisait un peu en deux parties. Une partie on faisait de la recherche comme celle que je viens de t'expliquer, même si j'ai pas été trop dans le détail, et une autre partie qui était de les accompagner en stage ou à l'entraînement ou en compétition pour aller un petit peu plus loin dans la confiance avec les athlètes et les entraîneurs et approfondir des sujets. Et du coup bah forcément le fil tu le déroules et puis bah tout doucement tu vas sur de la chaleur, du jet lag, de l'hypoxie, de la récup, etc., la nutrition. Et du coup quand t'es passionné de haute perf et que t'es jeune, tu te retrouves dans des contextes assez dingues à préparer des championnats du monde, des jeux, etc. Donc ça c'était mon job à l'époque. Je sais déjà plus quelle était ta question, mais c'était mon parcours. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, du coup principalement dans un premier temps avec les équipes de France de tri. Par la suite, j'ai fait avec le pentathlon moderne et le VTT, qui étaient deux fédés un peu historiques de Yann avec le triathlon, où Yann m'a tout doucement délégué, avec la confiance qu'il m'a donnée, ses fédés, parce que lui prenait tout doucement d'autres fonctions. Et puis, des choses se sont créées à l'approche des Jeux avec l'équipe de France d'eau libre et de boxe anglaise à l'époque. Donc du coup très sport d'endurance à part la boxe, même si ça reste un sport aérobie, enfin un dominant aérobie d'un point de vue énergétique. Donc voilà, et je suis parti de l'INSEP après les Jeux de Rio pour des raisons à la fois personnelles et d'équipe. On est tous plus ou moins partis dans l'équipe qui était celle de Christophe et de Yann. Je crois que tu as déjà eu François aussi en interview, donc il y avait François aussi notamment. Bref, et je suis parti dans le privé. J'ai fait une partie à l'Académie Mouratoglou de tennis, où je faisais plus ou moins les mêmes choses qu'avec le triathlon. Je travaillais toujours avec l'eau libre et le triathlon jusqu'au dernier jeu, qui étaient les deux fédés avec lesquels j'allais finalement le plus loin dans l'accompagnement et dans les choses qu'on pouvait faire ensemble, et qui du coup sont deux fédés qui comment dire, en tout cas deux DTN, qui sont retroussés les manches pour que je puisse être payé. Parce que quand tu es à l'INSEP, bah, tu es à leur disposition. Et là, c'était à la Fédé de me rémunérer pour mes actions. Et c'était une énorme marque de confiance parce que même si ça change à l'approche des Jeux de Paris, c'est pas quelque chose qu'on fait trop en France. On s'appuie au maximum sur les cadres d'État. Ce qui est une très bonne chose, hein, quand ils sont bon et que la Fédé est structurée, mais là, en l'occurrence, les sujets sur lesquels on allait, c'était moins le cas à l'époque. Bref, et pour arriver 2000, ça doit être 2019, la saison 2019, où du coup, j'ai différentes propositions dans le vélo pro, qui est mon sport d'origine, mais c'est pas pour ça qu'ils m'ont appelé. Donc, je suis parti dans l'équipe B&B, hôtel, avec Samuel, que tu as déjà interviewé aussi, je crois. Ou bah tous les deux, hein, je sais que c'est pour ça qu'on est venu, et d'autres, le message que nous donnait Jérôme était un message qui nous, en tout cas, nous plaisait sur le côté, voilà, on n'a pas la science infuse dans le vélo, on va aller voir ce qui se passe ailleurs, on va essayer de structurer, de faire des choix qui soient justifiés, donc là je suis sur ma partie très sport. Je finis sur la partie sport, c'est un peu long, excuse-moi.
Non, t'inquiète
donc,
pas.
J'ai rejoint la structure de Pierre-Ambroise Boss il y a quelques mois, vers les Jeux de Paris, où on essaye de structurer pour se rapprocher de ce que, en tout cas, moi, je connais dans le monde pro. Pas pour dire que c'est mieux dans le monde pro, mais qu'en tout cas, il soit moins tout seul avec son entraîneur, et livré à eux-mêmes. Pas tant que son entraîneur n'ait pas de compétences, mais voilà, ils sont suffisamment lucides pour... savoir que en 10 ans, en analysant la carrière de Pierre, il y a des choses sur lesquelles ils ont besoin d'aide, d'accompagnement, en tout cas de tous se challenger ensemble et de structurer, et pas que avec moi en l'occurrence. Et du coup, mon rôle dans la structure, il est un peu nouveau pour moi. Tout ce que je t'ai décrit avant, c'était très très sport scientiste, même si plus la confiance arrive, plus je mets un œil sur l'entraînement qui est réalisé et un avis. Et on reviendra peut-être dessus après. Mais là, je remets vraiment les mains dans le cambouis de l'entraînement et de la prep physique, donc c'est cool. Surtout avec un athlète qui est à la fois exceptionnel, mais à la fois qui a des antécédents qui en tant que kiné te plairaient certainement, mais qui font qu'il faut se poser beaucoup de questions, faire des choix les plus fins possibles et essayer autant que possible de limiter la part de risque parce que les jeux c'est demain et que Pierre a eu quelques années dernières compliquées et qu'on n'est pas forcément en avance. Pas forcément en retard, mais on n'est pas forcément en avance. Et du coup, voilà. Et à côté de ça, comme on se le disait tous les deux en intro, j'ai une grosse partie sur, on va appeler ça de la vulgarisation, qui est quelque chose qui m'anime au quotidien, qui est finalement ce que je fais au quotidien dans le sport. Hein, on ne va pas se mentir. Je sais pas, l'article que je fais sur le pape, même si je le vulgarise encore plus pour monsieur tout le monde, je vais dire la même chose qu'à un cycliste professionnel ou qu'à un tennisman professionnel. Ouais. Simplement, je vais changer deux, trois mots, mais voilà, faut pas se mentir. À un moment donné, si tu veux que les gens te comprennent et te suivent, tu vas pas leur donner un article scientifique en anglais et leur dire, bon courage. Donc c'est un peu le même job et c'est finalement ce qui, comment dire, m'a beaucoup plu dans l'approche de Yann au départ et c'est beaucoup là-dedans qu'il a été. Moi, je pense que déjà anticiper une de tes dernières questions que tu m'as déjà dit que tu me poserais, un de mes mentors. Parce que, notre job, il est d'être audible, d'être compréhensible. Compréhensible, oui, c'est français, il est tard.
Cible, oui.
Et que, avant de faire compliqué, faisons déjà simple et entendable. Et surtout que les gens s'approprient les choses et deviennent autonomes. Et du coup, à la fois pour Monsieur Tout le Monde et à la fois auprès de Transfert, où je suis salarié chez eux à temps partiel, et où on avait monté une formation avec Yann, Christophe, Aurélien Broussal, que tu as interviewé aussi, je crois.
Oui. Oui.
C'est une formation qu'on leur avait proposée en 2014. Ça fera bientôt 10 ans. Donc en 2013 même, parce que la promo c'est 2013-2014, qui s'adresse à tout acteur du sport, donc kiné, ostéo, prépa physique, entraîneur, éducateur sportif, docteur, l'idée c'est de mettre à disposition des outils pour avoir une vision à 360 degrés de la perf. C'est un peu ça qui nous anime. Je crois que tu es d'anciens étudiants aussi, tu as dû avoir Mathieu, peut-être Thomas.
Oui, Thomas.
Et tu as dû avoir Mathieu Toulza, je pense aussi.
Oui, Thomas, carrément.
Thomas Benaglou.
Ouais.
Bref, et si tu veux, notre idée c'était de nous dire, pour nous c'est important d'avoir des notions en nutrition, c'est important d'avoir des notions en récupération, c'est important d'avoir des notions en sommeil, Et c'est important aussi, de quand tu parles de force, de vitesse ou d'endurance ou d'aérobie ou ce que tu veux, de comprendre de quoi on parle. Et le pitch de départ, c'était un peu ça. Donc après, c'est arbitraire, hein, les choix, on les fait entre nous. Et puis d'essayer de mettre pour nous, alors j'aime pas du tout le terme que j'ai employé, parce que j'aime pas qu'on l'emploie pour moi, mais en tout cas un expert, en tout cas quelqu'un qui maîtrise le sujet, mais surtout qui a la capacité à être science terrain, terrain science. Donc typiquement, voilà, je pense qu'Aurélien, il est prêt physique au quotidien, mais il est capable de justifier ses choix. Et inversement, Yann, il a beau être scientifique, bon, il met un pied sur le terrain tous les jours, et je sais pas si tu fais un cours sur les filières énergétiques, pour être très basique, il va pas juste te parler de cycle de Krebs et d'ATP. L'idée, c'est que tu te l'appropries. Voilà, écoute, le point de départ, c'était ça. Maintenant, c'est une formation qui vit très bien, donc c'est cool. À la fois, ça reste du business, hein, à la fois, elle est très rentable, et ça, donc c'est une très bonne chose, parce que ça donne des moyens et des arguments pour la développer. À la fois, elle a du succès, donc ça, c'est cool. Donc c'est que les gens viennent vers nous et les gens nous recommandent quand ils l'ont fait, donc ça, c'est hyper cool. Et à la fois, l'équipe pédagogique, on doit être 16, et c'est 16 potes. Au-delà de leurs compétences, c'est 16 potes, donc c'est à driver, ça reste, même si c'est pas vert tous les jours, ça reste plutôt cool. Donc voilà en gros mon parcours actuel, et puis il y a 2-3 trucs qui se lancent dans les jours qui viennent, donc je vais pas forcément t'en parler parce que je me ferai taper sur les doigts sinon, même s'il sera peut-être sorti plus tard.
Mais non, ça sera sorti plus tard, et ça sort, on est large, ça sort, il me semble que ça sortira en décembre.
Ça sortira en décembre.
Ouais. Tout sera sorti d'ici. Attends, je vérifie.
Dans l'ordre de choses que je peux te dire, c'est horrible, j'ai l'impression d'être hyper vantard en disant tout ça.
Mais non.
Je vais m'investir un peu plus dans un podcast très grand public. Ouais. Mais là, je préfère rien dire parce que pour le coup, il n'y a rien de signé et on est en égo pour le coup.
Tu peux nous dire de quel sport ça?
Comment?
Tu peux nous dire juste de quel sport ça parle? Ou c'est
ça
trop?
Ça parle de course à pied.
Ok.
Très grand public et ça marche très fort. Donc si t'es pas trop mauvais, je pense que tu l'as.
C'est bon, je pense ce serait énorme.
Mais n'en dis pas plus parce que c'est. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'assez cool, c'est que. Si tu veux, je suis intervenu chez eux et il y a un an, deux ans, je sais même plus. En tout cas, ouais, ils étaient venus chercher pour un sujet. Moi, ça me bottait. Et ils ont envie de. Comment dire?
Diversifier.
Que ce que je peux faire auprès de l'EPAP sur de l'écrit soit fait en audio et beaucoup plus large, parce que tu dois savoir comme moi qu'ils ont une force de frappe qui est énorme ici. Et du coup, moi, ça me botte parce que je t'avouerai que pas tant que j'ai la science infuse et que je suis Dieu, je considère que malgré tout, on est en 2022, donc ce grand public, il a accès à tout et à rien en même temps. Donc je trouve ça plutôt cool qu'ils essayent d'être encore plus fins et pas qu'au travers de moi, hein, parce que je suis pas le seul à être recruté et ils recrutent depuis quelques temps. Alors il y a un petit truc dans le sport co, là je t'en parlerai pas, c'est très 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 sur un point précis. Et c'est cool, ça me plaît beaucoup. Et sinon je reviens un peu à mes premiers amours, parce que du coup j'ai quitté la FF Tri en 2020, nous ne pouvons pas tout faire, et surtout, ça va un peu faire la suite de ce que je disais tout à l'heure, c'est une fédé, j'ai aucun souci à dire ça, qui je pense est l'une des fédés les plus structurées en France, malgré que ce soit une toute petite fédé, donc forcément une fédé avec un petit budget, ils ont des cadres qui sont Laurent Barre, et ce qu'on a essayé de faire, quand je suis parti de l'INSEP, et sachant que mon temps devenait plus précieux qu'avant, ils sont devenus très autonomes sur du testing, très autonomes sur l'hypoxie, très autonomes sur plein de sujets comme ça, où honnêtement je pense qu'on était arrivé au bout de l'histoire et j'avais pas envie de rester juste pour dire, hey, les gars, je veux juste dire que je travaille pour la FF3 et que si Vincent lui c'est champion du monde, je pourrais mettre une photo parce que je vois pas, enfin ça me plairait pas, donc bref, et du coup je vais peut-être remettre un pied dans le triathlon mais sur du très longue distance.
Ok.
Où on monte un projet avec un ami, ou un peu comme avec Pierre, on essaye de
structurer autour,
de faire en sorte que ce soit beaucoup plus structuré, parce que ils ont beau être parmi les meilleurs au monde, ils bricolent tout le temps. Ils vont faire 150 courses dans l'année pour avoir assez de budget pour clôturer leur année, donc forcément le jour où ils arrivent à Hawaï, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, écoute, mais du coup ce qu'il y a d'assez cool, c'est que ça se fait en toute amitié et du coup, on s'éclate bien pour l'instant.
Top, top. Et alors justement, ce que tu fais en tant que conférencier en entreprise pour Square Champs, quel parallèle tu fais entre le sport de haut niveau et les entreprises et comment ça se passe?
Ouais, alors du coup, ça a changé de nom il y a quelques jours, quelques semaines. Ça s'appelle Experience Sport. Maintenant, okay. Vous pouvez le trouver sur Instagram ou LinkedIn. En fait, si tu veux, le point de départ de cette expérience, il vient de Brian Cantero, qui est un ancien coureur de 1500 mètres, qui est le meilleur ami de Pierre-Ambroise Boss. Donc, tu vois, il y a des choses qui se recoupent. Qui est un athlète qui a toujours été à la limite des minima pour aller aux Europes. Donc, bref, qui a galéré toute sa carrière, le pauvre. Mais qui même lui, étant pro, mais sans vraiment le statut de pro finalement, il s'est rendu compte que même des mecs comme Pierre, ça galère. Ça galère pas que les années où t'es champion du monde, hein, sinon autour de ça, ça galère. Et le meilleur exemple, c'est un ami commun qu'on a tous les trois, qui est Ladjidou Kouré, qui est double champion du monde et qui a bien galéré aussi. Bref, et l'idée, si tu veux, le point de départ, c'était de se dire... si tu veux, il y a plusieurs choses, je veux dire chez Square Champs, ça veut dire chez Experience Sport maintenant, qui est à la fois de rendre les sportifs plus stables financièrement, mais que ça vienne de leurs compétences. Donc typiquement, l'un des premiers axes sur lequel je suis pas du tout, c'est de pouvoir ouvrir certaines séances de sport, d'entraînement des athlètes au grand public. Qui kiffera aller faire un footing avec Pierre-Ambroise Boss ou taper la balle avec, Paul-Henri Mathieu, parce qu'au début du projet, il était encore tennisman, mais il ne l'est plus, enfin bref. Qui, pour l'athlète, ça ne lui coûtera rien, parce qu'il est parti pour faire un footing, que tu le fasses tout seul ou avec un cours du dimanche, ça reste un footing. Par contre, le cours du dimanche, il sera très content de mettre un petit billet pour partager une expérience de fou. Donc ça, c'est le point de départ très très un peu social, sur l'aspect politique, et de à la fois de lui donner de l'argent et de nourrir une cagnotte pour mettre à disposition des athlètes des compétences qui sont pas forcément parce qu'ils sont pas forcément tous ultra structurés. Donc ça peut être des gens comme toi, hein, côté kiné, côté docteur, côté moi, côté prep mental, côté etc. Et puis sur l'aspect plus entreprise, donc qui est plus le mien, il y a deux choses. Il y en a une qui est que sur le côté conférence, on s'est clairement rendu compte que, tu vois, nous on est très fermé, le sport, il y a que ça et on maîtrise pas d'autres choses. Mais en fait, je sais pas, je te prends un exemple d'une de mes conférences. C'est pas à toi que je vais apprendre que ne pas être sédentaire, ça te fera potentiellement être un meilleur employé parce que tu seras plus endurant, plus solide à la charge, plus rentable et mieux dans ton corps au travail comme à la maison, que avoir une certaine hygiène de sommeil, ça te rendra plus performant à la maison comme au travail, que avoir certaines notions de nutrition sans s'inventer, sans vouloir être champion olympique. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire redescendre. Mais en vulgarisant à mort et surtout imposer et dire voilà la méthode c'est ça les gars, mais plutôt je vais vous expliquer ce qui fait que on sait que la majorité des adultes dorment moins de 6 heures par nuit, pas forcément parce qu'ils ont un enfant comme toi et moi, juste parce qu'ils dorment pas beaucoup. Et en fait, ça, tu sais comme moi que ça aura des aspects négatifs, certes, sur leur travail, mais avant tout sur leur santé, et sur leur santé globale, mais aussi à la maison, avec leur famille, et que finalement, quand tu allumes ta télé, on va juste te dire, les gars, c'est pas bien, faut dormir 8 heures, mais on t'explique pas pourquoi. Comme faut manger 5 fruits et légumes. Ouais, mais moi, si tu m'expliques pas pourquoi, je vais manger
moins sucré, moins salé.
Alors que, je pense qu'on. Ça veut pas dire que tout le monde va le faire, mais en prenant les gens pour des grandes personnes, et je pense pas forcément à des adultes, hein. Typiquement, je pense que c'est des choses qu'on peut aussi faire avec des ados ou des jeunes. Plutôt que juste leur dire va pas au McDo, explique-leur en quoi c'est négatif et en quoi d'autres choses pourraient être plus positives. Bref, donc ça c'est l'aspect plus conférence, mais finalement ce qui a le plus eu d'impact, On avait la première fois, on avait été sollicité par une boîte lyonnaise qui faisait de l'import-export dans des choses liées à l'eau, mais des choses plus ou moins lourdes qui font de 5 à 100 kilos. Donc genre des ballons d'eau chaude, des releveurs d'eau pour la piscine, enfin bref. Et toute la journée, ça porte, ça met à droite, à gauche, ça descend, enfin tu te baisses, tu te... Bref, les mecs sont démontés, et les quelques filles, parce qu'il y a surtout des hommes. Ils sont venus nous chercher parce que c'était une boîte qui était assez portée sur la qualité de vie au travail, mais ils trouvaient pas de solution parce que à chaque fois qu'ils faisaient venir un ergonome, un kiné, un docteur, malgré toutes les compétences qu'il a, c'était très voilà, je viens, je vais te montrer comment bien faire un squat, mais ouais, sauf que en fait, tu vois, avec eux, on a fait un audit initial où pendant 2 jours, je leur dis les gars, je suis comme vous, je veux faire comme vous, montrer ce que vous faites. Et en fait, quand t'as le coup de feu, que tu reçois une commande et qu'il faut faire 100 palettes à l'heure, tu peux pas faire des squats, en fait. T'es obligé de te casser le dos, t'as pas le choix. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, si tu veux, le point de départ, il était à la fois de se dire peut-être qu'avec le sport, on peut vous apporter des choses, et peut-être qu'avec le sport, on aura plus d'impact. Et donc, l'idée, si tu veux, c'était le point de départ, c'est un audit initial. Faites-moi vivre votre expérience. Ensuite, j'ai un peu réfléchi. Et je me suis rendu compte que des choses qui vont pas te surprendre, hein, ça s'échauffe pas, ça ne se masse pas. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça après. Ça, comment dire, tu vois, enfin plein de choses très 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 grossières, mais où finalement, si tu leur dis juste faut que tu t'échauffes, ils vont dire non mais mon gars, je suis pas sportif, j'ai pas le temps. Moi, le point de départ, c'est à 8h. Je ne crois pas que je vais venir à 7h58 pour m'échauffer en étant payé un SMIC. Donc, on est parti sur des choses très basiques, automassage avec une balle de tennis, une balle de golf, un rouleau, certains exercices de mobilité. Enfin, voilà, à chaque fois, en essayant de détecter des mots où on sait qu'on pourra avoir des améliorations assez rapides, mais en donnant des arguments où je le construisais avec un champion à chaque fois. Quand ça a été... des mots cervicales, je l'ai fait avec la capitaine du 15 de France, l'ex-capitaine du 15 de France, pour des problèmes plus liés sur les tendinites, poignets, etc. Je l'avais fait avec Nordin Ubali, qui était triple champion du monde de boxe à l'époque, pro. Pour des automassages, je l'avais fait avec Arnaud Assoumani, que tu, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est une des légendes du paralympique français.
Triple saut et saut en longueur.
Saut en longueur et surtout en saut en longueur, qui a eu des gros records et des titres olympiques. Il est 3 fois champion olympique, si je dis pas de bêtises, enfin paralympique, pardon. Et du coup, c'est ce qu'il y a d'assez rigolo, c'est que certains qui étaient plus attachés à je veux comprendre, écoutez ma voix, et d'autres qui étaient plus attachés à attends, mais moi je kiffe le rugby, j'ai écouté ce qu'elle a à me raconter, et en fait elle disait la même chose que moi, mais avec d'autres mots.
Ça a plus d'impact.
Et, sauf que si tu veux, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que quand la première fois que je les ai rencontrés, c'était très qu'est-ce que tu vas m'apprendre, moi je suis pas sportif de haut niveau, mon corps c'est pas mon outil de travail. En fait, je pense que ton corps est plus ton outil de travail que le sportif de haut niveau, parce que lui il passe pas 8 heures par jour à répéter le même mouvement, et en plus contrairement à ce que tu penses, je sais pas, si le tennisman comme toi il répète le même geste x fois dans une heure, qui se fait une tendinite ou je ne sais quoi, lui va être obligé de trouver des solutions parce qu'il ne peut pas se mettre en arrêt de travail, sinon sa saison est compliquée. Et donc, il faut qu'il trouve des solutions. Et donc, ces solutions, c'est celles qu'on va vous proposer et ils vont vous justifier pourquoi ils ont dû mettre ça en place. Et typiquement, Lénaïque Corson, l'ancienne capitaine du 15 de France, tu vois, quand je lui ai parlé des cervicales, il m'a dit moi je me suis explosé les cervicales, je pouvais plus rentrer en mêlée, ma carrière était terminée. Et forcément, quand elle arrive et qu'elle leur sort des mots comme ça, ça a de l'impact et il faut que je trouve des solutions. Certes, j'ai toujours des soucis aux cervicales, mais je le prends en compte, je m'échauffe mieux, je vais plus faire de soins chez le kiné, chez l'ostéo, etc. Bref, et du coup, ça a marché de fou, et pas que grâce à moi, surtout grâce à Brian qui a eu ses bonnes idées. Et du coup, il y a eu des taux de conversion, des taux d'adhésion qui ont été, ils s'y attendaient pas. Tu vois, les patrons nous ont dit, nous, si vous touchez 5%, on est trop contents. Et on a touché 60%. Et en fait, les 40% de toi à moi, ils peuvent m'écouter, je pense qu'ils le prendront pas mal. Finalement, c'est des gens qui sont très fermés à ça et qui n'ont même pas ouvert Parce que si tu veux, il y avait une partie physique, une partie distancielle, une partie learning. Et l'avantage du e-learning, c'est que tu sais qui ouvre le truc ou pas. Si on ne couvre pas et qu'à la fin, on te met 0 sur 10, bon,
tu sais pas.
Tendance à dire que ça va être compliqué. Voilà. Et donc, bah, malheureusement, le premier impacté, ce sera eux, parce que derrière, ils sortent des témoignages où ils vont dire « Non, mais c'est normal, mon travail, on a tous fini comme ça. » Quand tu crées un peu le lien, le mec va te dire « Mais le week-end, je peux même plus tondre la pelouse, parce que si je ne mets pas dans un canapé, je ne peux pas retourner travailler le lundi. » Et ok, t'as quel âge? J'ai 55 ans. Ok, donc ta retraite, c'est dans quelques années. Donc, bah, bon courage, mon gars. Donc voilà. Mais écoute, super expérience. Et à l'inverse, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que je pense qu'on a beaucoup à leur apporter. Et à la fois, on s'y ferme trop, je pense, quand on est dans le sport. Et à la fois, tu vois, il y a un certain, le sport, c'est le sport, l'entreprise, c'est l'entreprise. Et à la fois, je pense qu'ils ont beaucoup à nous apporter aussi, parce que en étant trop auto-centré, trop fermé, bah, l'entreprise qui doit être pragmatique, rentable, efficace, gérer beaucoup d'humains qui ont des comportements différents, des parcours différents, bah, je pense qu'un bon manager et des bons sous-chefs et des bons employés, bah, ça pourrait peut-être nous aider à mieux faire tourner des structures où on a beau être spécialiste de certaines compétences dans le sport, je crois pas qu'on soit trop formé à travailler en entreprise et pourtant, mais c'était juste un coach versus un athlète, hein, il y a un client et un prestataire jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Donc il y a quand même un placement et un comportement à trouver pour que la personne croit en toi, que la personne sache te parler, etc., etc.
Carrément.
Et voilà, je crois que j'ai fini de divaguer.
T'inquiète, c'est bien, c'est ce que je veux, c'est top. Et alors, on passe plus sur la partie quantification de la charge, etc. Je sais que c'est une de tes spécialités. Comment, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, comment chercher un facteur de performance dans un sport? Est-ce que, tu vois, si tu débarques sur un sport entre guillemets qui est nouveau pour toi, est-ce que tu vas regarder sur de la littérature scientifique? Est-ce que tu vas faire le tour des gens avec qui tu vas travailler? Tu vas leur demander, mais pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un athlète va être, on va dire, au plus haut et qu'un bon athlète restera un bon athlète et qu'il n'ira jamais au niveau, on va dire, d'excellence? Tu vois, comment tu fais pour analyser, pour trouver les facteurs de performance dans un sport?
Bah déjà, tu t'assois et t'écoutes, je pense. Je vais pas te dire que ça, mais ce que je vais te dire là, pour moi, c'est hyper important. Et alors, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé d'Yann, donc je te remets Yann. Mais tu sais qu'Yann, c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup transmettre, où il disait tout le temps ses stagiaires ou enfin bref, un bon scientifique à l'INSEP, c'est déjà quelqu'un qui écoute avant de parler. Et je pense que ce que je viens de te dire là est important, parce que même si tu vas peut-être venir donner ton avis, essayer de corriger des choses. Bon, bah, jusqu'à preuve du contraire, de ce que tu viens de me dire, tu pars du principe que je vais dans des sports qui sont pas mes spécialités, et c'était le cas dans beaucoup de sports dans lesquels j'ai été. Tu vois, un des entraîneurs avec lesquels j'ai plus travaillé, c'est Philippe Lucas. Bah oui, Philippe, dans la confiance qui s'installait entre nous, j'ai essayé de lui amener des choses, parce qu'il y a des choses qu'il maîtrisait peut-être moins bien que moi. Ouais, il est pas spécialiste de nutrition, de récupération, très clairement. Et c'est aussi pour ça qu'il s'occupe pas de ça. Mais à l'inverse, tu parles de charge d'entraînement. Bon, bah, si des fois on pouvait aider ces athlètes à mieux récupérer quand ils sont cramés, peut-être ce serait bien. Et on n'est pas toujours au bord du bassin avec lui, parce que notre organisation et la petite fédé qui est, enfin, la petite structure qui est l'Olib dans la FFN, fait que on peut pas être auprès de Philippe tout le temps. Bref. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un aspect très important qui arrivera souvent après tout ce que je vais te dire avant, mais qu'il faudra toujours avoir en tête. Et qui sera, je pense, encore vrai, même si tu es spécialiste et que tu vas dans de nouvelles structures où voilà, il y a des choses qui ont été construites sur des années et ils ont peut-être pas tout faux déjà. Et ils ont peut-être des choses à t'apprendre, parce que encore une fois, le chemin qui a fonctionné pour toi sera peut-être pas le même pour leurs athlètes. Je sais pas. J'ai vu dans l'équipe hier que l'hôpital dans lequel tu bosses commence à bosser avec Christophe Lemaître. Donc ça, c'est un exemple que j'ai en tête.
Oui,
je pense que tout le monde a son avis sur Christophe, et tous les gens qui sont dans la clé ont son avis sur Christophe. Bon, bah, moi, jusqu'à preuve du contraire, la première chose que j'aurais tendance à dire aux gens, certes, depuis quelques années, il est moins performant. Tu vois, c'est le même exemple que pour Pierre Ambroise, mais déjà, respecter ses anciens mentors, parce que pour vous, c'est vraiment des mentors. Parce que ce qu'a fait Christophe jusqu'en 2016, c'est juste énorme. Et on, enfin, tu vois, on est qui pour critiquer ça? Ça fait très footix, tu vois. J'ai regardé à la télé, j'ai vu, il fait pas ci, il fait pas ça, il lui manque ça. Ouais. Le mec, il a quand même fait une carrière de malade. Donc respectons déjà ça. Et respectons les gens qui l'ont encadré. Bref. Et pour du coup revenir à ta question de base, bah, ça va rejoindre un petit peu quand je te parlais de notre formation. Déjà, très clairement, oui, tu as raison. Une discipline, il faut l'analyser. Je pense que déjà, ce qui est important, c'est de, encore une fois, sans être spécialiste des choses, c'est d'être curieux. Voilà, tu vois, moi, j'ai une thèse en physio, bah, c'est pas pour autant que je vais pas aller lire ce que fait un Jean Bonhomme Morin, un Pierre Samozzino, etc. Parce que bah, dans le vélo, par exemple, je me suis rendu compte que sur une classique, dans la dernière heure, tu peux presque faire une droite de tendance pour te rendre compte que ceux qui s'écrasent le moins à l'arrivée sont ceux qui auront le talon qui s'affaisse le moins et donc qui auront une cheville la plus gainée sur plusieurs heures. Bon, bah là, tu m'excuseras, c'est pas de la physio. Et du coup, j'ai peut-être avoir besoin de un petit peu réfléchir à, OK, comment je peux faire du travail de pied en vélo? Comment je peux quantifier ça? Comment je peux leur faire croire à ça alors qu'ils n'ont jamais fait de proprio de leur vie pour la plupart? Ou de travail de pied ou de gainage de cheville? Bref. Du coup, je pense qu'avant tout, il faut être curieux. Il faut essayer de comprendre les choses. Donc ça, ça prend du temps. Typiquement, je vais pas te dire que moi, je comprends tout. Mais voilà, essayer de, je sais pas, tu vois, je sais pas, moi, dans mes spécialités, je pourrais te parler, je sais pas, d'entraînement polarisé parce que c'est la base dans les sports d'endurance. Essayer de bien comprendre pourquoi l'entraînement polarisé semble fonctionner pour beaucoup de sportifs. Qu'est-ce que ça peut amener réellement? Pourquoi? Quel mécanisme d'adaptation? Et du coup, ensuite, essayer d'analyser la discipline, là, tu l'as dit. Il y a, pour moi, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a déjà avoir un spectre de lecture. Ouais, je vais pas te faire bon. C'était la rentrée de ma formation. Je l'ai fait en deux jours, ce cours-là. Donc, je vais peut-être pas te le faire aujourd'hui. Voilà, de bien comprendre à quelle famille de sport ça appartient. Comment je peux l'analyser. Déjà, de façon assez grossière, mais où j'ai quand même une plutôt bonne vue des besoins énergétiques, musculaires et mécaniques. Grossière, mais en tout cas, pour que demain, si tu me balances dans le tennis, bah, je sache quand même quels sont les besoins de façon grossière d'un joueur de tennis. Et ensuite, évidemment, je vais zoomer si c'est un joueur de fond de cours ou qui fait service volé, c'est pas la même chose, bien entendu. Pour autant, sans t'inventer spécialiste du tennis, le jour où tu vas devoir parler à l'entraîneur, c'est peut-être bien qu'il se rende compte que si t'arrives comme kiné, prep physique ou sport scientiste, t'as un peu de répondant quand même, sans lui faire la messe non plus. Ensuite, tu parlais de je sais pas si tu l'as évoqué, mais voilà, je pense qu'en 2022, on a quand même pas mal de bibliothèques qui peut au moins nous permettre d'être un petit peu plus fin. Pas dans tous les sports, pas toujours de façon comment dire. Voilà, encore une fois, suivant le public, suivant comment t'es faites les études, ce sera plus ou moins fin et précis. Mais déjà, tu vois, t'affines quand même, l'entonnoir, il commence à se resserrer. Et pour moi, le dernier niveau, et je pense que c'est faisable quasiment pour tout le monde, pas que par une élite comme par le passé, typiquement quand on était chercheur à l'INSEP. Honnêtement, ce qu'on a fait avec Yann pendant des années, vous rigoleriez maintenant, hein, mais je sais pas... le premier test even de triathlon où à l'époque c'était hyper novateur ce qu'on faisait ou en VTT, bah c'était un capteur de puissance, un accéléromètre à pied et une caméra haute définition. Et pour autant, ce qu'on analyse à l'époque, je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus fin maintenant, si ce n'est d'aller un petit peu investiguer peut-être des marqueurs musculaires ou physio, mais en compétition c'est pas si simple que ça. Et voilà, et je pense que en 2022, sans énormes moyens financiers, tout ça, t'es capable plus ou moins de le faire, même dans d'autres disciplines, pas forcément que dans les disciplines d'endurance. Et pour se rendre compte, je sais pas, pour se rendre compte qu'en triathlon, sur l'heure de vélo, c'est 20 à 25% entre 100 et 150% de PMA. Donc ouais, ça dure 1h50 à 2h, donc ouais, c'est aéro. Par contre, si t'as pas cette info-là, tu vas bien te trouver, mon gars. Que suivant les parcours, ça peut être 50 à 120 relances à Pmax. Ok, donc c'est de l'aérobie, mais bon courage, t'as pas anticipé ça pour courir. Voilà, je te prends l'exemple le plus facile, ou que en eau libre, tu vois, en eau libre à l'époque, donc on doit être en 2014, à 2 ans des Jeux, on propose à Stéphane, déjà, pour te dire, on s'assoit, on écoute, Donc Stéphane Leca, qui était le manager, enfin qui est toujours le manager de l'eau libre, qui est le plus gros palmarès de l'eau libre ancienne génération, où les mecs faisaient 40, 50, 100 bornes dans des trucs improbables. Nous dit, bah, moi, d'après moi, et d'après Philippe aussi, ou Magali, ou Eric, enfin bref, des entraîneurs, on pense que les 500 premiers mètres, les 400-500 premiers mètres, ça part fort parce qu'il faut être placé à la première bouée, très fort, ça part très fort, qu'ensuite ça se tasse jusqu'aux 7000 mètres, mais que tu essaies de garder ta place, et qu'ensuite c'est 1500 progressif et 1500 progressif à la moitié. Mais on a aussi l'impression qu'il y a des changements d'allure, mais voilà, on a l'impression. Et c'est pour ça qu'un mec comme Philippe, dès ses premiers entraînements avec Aurélie Muller, s'était mis à faire du travail de sprint, du travail lactique, du travail de force. Tout le monde le prenait pour un fou. Bon, 6 mois après, les championnes du monde, ils prennent un peu moins pour un fou. Et il s'avère, tu vois, on leur avait mis des Garmin dans le bonnet, donc interdit.
Ouais, énorme.
Mais bon, on est à 2 ans des Jeux. On se dit, vaut mieux être viré d'une Coupe du Monde et savoir ce qui se passe plutôt que bricoler. Et il s'avère qu'ils avaient raison. Donc, tu vois, ça vaut le coup d'écouter les spécialistes. Par contre, on a découvert que, en gros, t'as des espèces de tendances comme ça, mais que le fait que tu... C'est un peu comme dans une course en peloton en vélo. Le fait de devoir faire des relances à la bouée, le fait de se faire noyer, le fait de se faire attraper les pieds, le fait de devoir repasser devant un mec, passer l'épaule, etc. C'est que des successions de 50 mètres à bloc et en récup. Donc, c'est du style, un mec, il va faire un 50 en 26 secondes, un 50 en 33 secondes. Oui. Et quand tu fais la moyenne, bah, évidemment, il y a des périodes plus faciles, des périodes moins difficiles. Et du coup, c'est qu'une répétition de, j'allais dire, de sprint. C'est pas des sprints max, hein, mais en tout cas de fortes allures. En tout cas, plus qu'AVMA. Et qui se finira souvent, et c'est encore plus vrai maintenant. Tu vois, en 2016, quand on fait 2 et 3, enfin 2 avec Aurélie qui est déclassée. Chez les garçons, t'as X scénarios de course pendant 10 bornes, donc pendant 2 heures, X fois, tu te dis, bon, bah, lui, enfin, les 3 là, on sait qu'ils vont être sur le podium, puis en fait, les cartes retombent, et à 400 mètres de l'arrivée, ils sont 20 sur une largeur, et tu sais pas qui va gagner. Donc, ça s'est fini par un 400 mètres à bloc.
C'est énorme.
Ce qui fait qu'à la fois, ça demande d'être hyper complet, et à la fois, maintenant, si tu prends en France, en gros, tu prends le classement des championnats de France sur 400, 800, 1500, t'as plus que des nageurs de libre. Alors, c'est encore plus vrai, 800, 1500, évidemment. Et si tu prends au niveau international, les derniers champions du monde et champions olympiques sont les recordman du monde du 800 du 1500, sont les champions du monde du 800 du 1500, sont les champions olympiques du 800 du 1500. Alors que quand nous, on a débarqué en 2013 avec Yann, c'était un peu, tu vois, en France, en eau libre, on met les mecs qui sont endurants mais qui n'ont pas de qualité pour le bassin. En gros, on met les bons mauvais, quoi. En fait, c'est très vrai parce que du coup, il faut que tu aies des qualités de vitesse, des qualités à tamponner les ions H+, il faut que tu sois capable d'encaisser les rapides sons de sprint, mais il faut que tu tiennes 2 heures.
Putain, c'est
que tu fasses des bornes. Bref, donc voilà, écoute, je sais plus si je t'ai répondu parce que j'ai encore beaucoup divagué. Et aussi d'être encore une fois, tu vois, ce côté très humble dont je te parle depuis le début, c'est que. Et en plus de tout ça, il va falloir que tu le spécifies à ton athlète. Parce que je t'ai cité quelques noms, hein, je pourrais t'en citer plein d'autres qui parleront aux gens, mais il y a la discipline et il y a ton athlète dans la discipline. À la fois ses qualités, ses forces, ses faiblesses, et à la fois c'est son histoire, son passif quand il était jeune, comment il s'est entraîné, son passif de blessure, sa façon de vivre, sa façon de s'entraîner. Qui fait que moi je te l'ai fait macro, mais sur le côté micro, ça redonne du challenge, quoi.
Et justement, alors sur la charge d'entraînement, tu en as déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts, mais qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que, avec ton expérience, au final, tu te dis ça c'est important, et au final, y a plein d'autres parties qu'on ne regardait pas forcément avant et que tu penses qui sont de plus en plus importantes.
Déjà, moi, ce qui est un peu bâtard, excuse-moi l'expression, c'est que du coup, j'ai quand même navigué dans beaucoup de sports. Donc, ce qui est vrai pour un coureur du sang n'est pas vrai pour un tennisman ou je ne sais quel sport. N'est pas vrai. En tout cas, on ne peut pas prioriser les mêmes choses. Parce que c'est comme moi que sur la charge d'entraînement, on peut regarder beaucoup de choses et c'est pas pour autant que ce sera justifié. Déjà parce que tu es obligé de faire des choix, hein, dans le sens où faut jamais oublier qu'on travaille sur de l'humain, et si ça commence à devenir la NASA, tu vas vite perdre tout le monde. et sportif avant tout, et toi dans le même temps. Par contre, là où je te suis, c'est que voilà, la data, ce qu'elle a de vrai, c'est que, alors il faut prendre du recul sur son analyse, mais en tout cas, plus tu peux en recueillir, plus ça permettra de conforter des impressions ou des choix. Et ensuite, voilà, je pense qu'encore une fois, tu vois, typiquement, je sais que, enfin, un mec comme Martin qui a beaucoup bossé sur l'AFC, et qui était un opérateur de thèse sur cette question, bah, il pourra t'expliquer que monitorer régulièrement l'AFC ou encore mieux le HRV pourrait te permettre d'être plus fin sur la réponse du système nerveux végétatif à la charge d'entraînement. Pour autant, c'est qu'une pièce du puzzle. Donc je pense qu'il serait le premier à te dire « Ouais, mais attends, ouais, mais moi dans le foot, j'ai aussi des aspects musculaires et d'autres aspects. » Donc je pense qu'à la fois, il faut faire des choix en fonction de quand tu fais une analyse de la discipline, où sont les priorités. Parmi ces priorités, quelles sont celles où on sera capable de s'engager sur le long terme, soit de façon financière, soit de façon à réussir à bien traiter les données. Parce que si tu lances plein de données dans le truc et que tu n'arrives jamais à les analyser, bah, je vois pas trop l'intérêt. Et à la fois, est-ce que les gens, soit qui t'entourent dans le staff, soit les athlètes, enfin les deux en l'occurrence, y adhèrent et souhaitent s'y investir. Je sais pas, je pense que les gens qui bossent dans le foot te diront tous, bah nous on prend des marqueurs subjectifs. Très souvent, ça va être une quantité de sommeil, une qualité de sommeil, un wellness au réveil, etc. Bon bah tu sais comme moi que si le footballeur il en a rien à battre ou qui comprend pas du tout la question, ou faut que tu le rappelles toujours 2 heures après au milieu à travers X relance sur l'application. Bon, c'est compliqué. Le subjectif il a aucune valeur. Donc je pense que déjà les choix ça va être, tu vois, une synthèse de tout ça. Et donc encore une fois là pour le coup ça vaut le coup de s'asseoir et de parler avec les gens et de créer de l'empathie, d'avoir de l'empathie avec les gens, pas qu'en créer. Et de les écouter et peut-être d'y aller aussi de façon d'accepter d'y aller step by step. Tu vois, si je devais de façon très humble, hein, mais faire un partage d'expérience de mes 11-12 ans dans le très haut niveau, c'est que la meilleure chance que ça fonctionne, c'est soit patient, choisis dans un premier temps un mix entre ce qui pour toi est non négociable et ce à quoi tes sportifs et ton staff vont adhérer. Et comme ça, là, déjà, t'as un bon combo, une bonne base où tu sais que ça va matcher. Et puis, quand ils vont prendre confiance dans ton travail parce que tu vas leur prouver que ça leur apporte des choses, pas qu'à toi, je sais pas, je te prends, ça, c'est une anecdote que je sors souvent en cours ou quoi, mais parce que je sais qu'elle parle aux gens. Tu vois, mon premier stage en Sierra Nevada avec le groupe de Philippe et le groupe d'Éric Boissière qui était Philippe, mais pas en pire, mais d'un autre profil, mais du même style. Ça parle bien aux gens. Un monsieur qui est décédé, qui était une machine, une énorme machine, qui a formé, tu vois, la stats, je crois qu'il a, avant qu'il décède, on s'est amusé à faire la stats, il y a, dans sa carrière, il y a 40 à 50% des membres de l'équipe de France, bassin et olive, qui ont été formés par lui. Énorme. Enfin. Premier stage en Sierra, j'arrive, le mec, il fumait un cigario dans une piscine fermée. Pour que tu situes un peu le profil. Première semaine, ils m'ont quasiment pas parlé les deux. Tu continues de bien situer le profil. Sauf que Stéphane, les connaissant bien, m'avait dit « Anel, t'y vas. » Dans un premier temps, tu pars sur ce sur quoi ils savent qu'ils sont pas compétents, ils ont besoin de toi. Donc, c'était de la récup, de la nutrition et essayer d'accompagner au mieux les nageurs parce que ils savent qu'ils en ont besoin, les entraîneurs, les nageurs. Enfin, les entraîneurs savent que les nageurs en ont besoin. Et puis, par contre, propose des choses qui soient pas impactantes sur leur entraînement, mais où toi, tu sais que ça fonctionne. Donc, typiquement, on monitorait leur FC en sous maximal à l'échauffement et en récupération, en plus de ce qu'on faisait la nuit au réveil. Et arrive le jour où Aurélie Muller, moi, j'ai tous les warnings qui s'allument. Donc, bah, il faut aller toquer à la porte de Philippe et lui dire, écoute, Philippe, je suis jeune, je regarde mes pieds, mais je crois qu'Aurélie, je crois que là, elle est en train de sauter. Ouais. Donc, forcément, ouais, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle saute? Donc, bah, je lui explique, je vulgarise à mort et surtout, je le prends pas de haut en disant qu'il a fait de la merde. et sa réponse, ça a été, Ah, mais je pense que tu as raison parce que bah justement, elle prend pas de l'eau comme d'habitude, elle est pas aquatique comme d'habitude. Ce matin, elle était insupportable. Elle me parlait mal, elle réagissait mal. Enfin, ouais, je pense qu'elle est cramée. Et on gère bien pendant un jour ou deux, c'est reparti. Et le point de départ, tu vois, il était très très basique, très facile. Alors que maintenant, bah, du coup, j'ai aussi passé la main sur l'eau libre. Ils font des trucs de malade et d'un point de vue accompagnement scientifique dans des fédés olympiques, ils sont à la pointe. Mais ouais, sauf que si tu pars direct sur la pointe, tu perds tout le monde et t'es grillé. Et du coup, chaque année, c'est pas tous les ans tu fais le point, hein, mais au fil de la confiance qui se crée, bah, proposer de nouvelles choses, expliquer pourquoi ça aurait un intérêt, essayer d'emmener à la fois les athlètes et les entraîneurs et le staff derrière toi. Ou avec toi, parce que derrière toi, déjà, c'est très présomptueux. Et c'est faux. Pour arriver à un truc où tu dis, voilà, putain, la charge d'entraînement, franchement, pour la monitorer mieux, des connaissances qu'on a actuellement, c'est chaud, quoi. Et je pense que c'est une erreur qu'on fait tous quand on est jeune et passionné et qu'on a envie de tout casser. C'est que t'as envie d'arriver, t'as ta boîte à outils et t'ouvres toute la boîte à outils d'un coup. Et je pense que c'est une erreur parce qu'encore une fois tu bosses avec des humains et tu bosses pas avec des robots, et le but du jeu c'est qu'au niveau relations humaines tu respectes les gens, que ça se passe bien et que chacun s'apporte et que tout doucement, tu vois, quand on parlait de management tout à l'heure en entreprise, bah que sur le long terme on les emmène le plus haut possible les athlètes et ou le staff tous ensemble. Donc voilà mon point de vue. Du coup je t'ai pas donné un ou deux marqueurs spécifiquement. Si tu veux me poser des questions sur des sports où j'ai été, je peux essayer de te répondre, mais...
Non, mais c'est bien, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'on avait évoqué précédemment. Et alors, ton rôle par rapport au projet de Pierre-Ambroise Boss, qu'est-ce que tu gères? Est-ce que tu chapeautes tout? Est-ce que tu orientes certaines décisions? Tu vois, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu faisais avec les fédés dont on a parlé précédemment?
Écoute, ce que ça change, c'est que déjà on est plus restreint en staff, qu'on est plus en mode petite famille, donc déjà ça change. Que ce qui change aussi, c'est qu'on construit tout le projet de A à Z, donc les budgets, faut aller les chercher. Donc tu sais, comme moi, que dans le sport, bon, l'argent, ça sert un petit peu quand même. Donc il y a tout à construire aussi à ce niveau-là, et même si on, comment dire, chacun a des rôles et des compétences. C'est pas moi qui vais chercher les mécènes ou les sponsors. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'on est une petite équipe où, voilà, sur l'aspect perf, c'est très, comment dire, Alain, Pierre, Ambroise et moi qui avons les clés du camion, et on s'est entouré, je t'en parlerai après parce qu'il y a des gens qui te parlent, d'un staff qui nous paraissait légitime pour Pierre, sur des compétences qu'on a moins ou qu'on n'a pas. Mais du coup, on est aussi, impliqué dans les aspects com et budget. Donc ça, c'est hyper cool parce que même si je m'y implique pas au quotidien, voilà, tu te sens vraiment dans une équipe et c'est pas, il y a le marketing d'un côté, la com de l'autre, etc. Comme je peux le connaître dans d'autres structures. Et ce qui est normal aussi, hein, mais là, on est beaucoup plus dans un projet, tu vois, très, où il faut aller vite et à la fois, il faut faire du coup humain. Et du coup, on est deux à entraîner. Donc, j'entraîne avec Alain Ligné, qui est l'entraîneur qu'il avait quand il était champion du monde, qu'on a rappelé. Le point de départ, il était double. C'était de se dire, Anaël, on pense que tu as des compétences, mais tu n'es pas spécialiste. Alain, j'ai une grande confiance en lui, mais il sera aussi suffisamment honnête pour dire que sur certains sujets, bah, peut-être qu'il sera limité, que ce serait intéressant de travailler ensemble, qu'il soit moins tout seul, tout le temps. Et inversement, typiquement, voilà, faut être honnête. Moi, j'ai jamais entraîné sur 800-1500. C'est même pas, j'ai jamais entraîné un champion du monde. C'est, j'ai jamais entraîné sur 800-1500. Enfin, 800-1500, pardon. Je sais pas pourquoi je dis 800-1500. Mais bref, sur 800, excuse-moi. Je te dis ça parce que, bref. Mais j'ai jamais entraîné sur 800. Donc le point de départ, c'était ça. Dans un premier temps, je planifiais. Alain donnait son avis, Pierre donnait son avis, et on validait. Oui. C'est ce qui est aussi qui est hyper intéressant, c'est que, bah, contrairement peut-être à ce que certains pourraient croire, Pierre, sur les aspects perf et entraînement, c'est une machine de guerre.
Oui.
Il comprend tout, il note tout. Donc, je sais que j'avais raconté ça à Thomas dans son podcast. Oui. le jour où on se rencontre, le lendemain, il me dit, Anel, je suis hyper chaud, on fait une visio, on reparle entraînement et tout. Et il me dit, je vais t'envoyer des fichiers, on les ouvre demain. Et là, il m'envoie 10 fichiers PDF. Enfin, c'était des Word transform, enfin, des Excel transformés en PDF. Où le mec avait noté tous ses entraînements depuis 2011 ou 12, j'en doute. Tout. Et il avait mis des jeux de couleurs qui coïncidaient avec je suis malade, j'ai un problème dans ma vie, ça se passe bien, ça se passe mal. Enfin bref, il y avait plein de jeux de couleurs. Donc, ce que nous, on aurait fait, tu vois, en tant que staff, tu vois, alors qu'on lui a jamais demandé, qu'il a jamais été formé à ça, et qu'il a très vite compris ce qu'il y avait de l'impact positif et négatif. Mm. Et ce qui était ouf, c'est que des fois, tu avais des trous. Et quand je lui ai dit, bah, je comprends pas trop ce trou, mais j'avais une petite idée derrière la tête parce qu'il s'était blessé avant ou après, souvent. Bah, y a un trou parce que là, tu vois, j'avais une déception amoureuse, je suis pas bien dans ma tête, je dormais pas. Mais écoute, les séances, je peux te les donner, c'était ça. J'ai couru tant au 10e près. Truc de malade. Bref. Et on a un peu switché au fil des mois. À la fois parce que, bah, comme tu l'as dit, je suis bien occupé. Et c'est ça que je vais te dire, c'est que l'idée c'était qu'Alain soit l'homme de terrain au maximum, parce que Alain est, alors il est président et entraîneur au club de Lille, mais il est à la retraite par ailleurs et donc il a plus de temps que moi. Et donc l'idée c'était qu'Alain soit au maximum à l'entraînement avec Pierre, notamment en stage, et qu'on soit un peu sur un deux tiers un tiers de présentiel. Et d'un commun accord, on a un peu switché, c'est que c'est moi qui maintenant prends, on va dire, de la hauteur. Alain propose et moi je donne mon avis et on valide ensuite. Et Pierre pareil. Donc on se fait des visios à trois régulièrement vu qu'on est rarement tous ensemble. L'idée c'est qu'il y ait au moins nous deux avec Pierre régulièrement. Voilà. Et donc du coup pour finir de répondre à ta question, à l'inverse, du coup ce qu'il y a d'hyper challengeant pour moi, c'est que j'ai les clés du camion sur tout le reste. Donc typiquement, j'ai sollicité JB et Pascal Edouard. Parce que comme tu dois le savoir, il y a des gros antécédents de blessures musculaires chez Pierre et que de ce que moi je percevais de ces blessures, je pensais qu'au-delà de leur spécialité très ischio, ils avaient beaucoup à nous apporter par ailleurs, pas juste un claquage ischio, c'est ça. Pareil, commençant à vivre beaucoup plus avec Pierre, je me suis dit, il y a un truc à creuser sur les intolérances alimentaires et là on a découvert que le mec, il y a plus de 100 aliments qu'il ne devrait pas manger. Oui. C'est une boucherie. Qu'il a un candidat, donc il y a un champignon qu'on a dû traiter, qu'il a un intestin qui est perméable, donc ça fout la merde. Bref, donc du coup je staffe autour de tout ça, donc trouver le bon docteur, trouver le bon kiné, trouver le bon ostéo. Faire en sorte que ça matche avec l'équipe, faire en sorte que ça matche avec le fonctionnement de Pierre, qui est très atypique, et que ça fonctionne bien ensemble. Je sais pas, tu vois, Pierre, c'est quelqu'un qui a jamais rien fait sur la récup et la nutrition.
C'est ouf.
Quand je te dis rien, c'est rien.
C'est ouf.
Il a quand même été champion du monde, donc tu vois, encore une fois, faut prendre du recul sur tout ça. Et crois-moi, il a pas été champion du monde par hasard. Par contre, voilà, ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Faut pas se dire, Pierre, il a jamais fait de récup, c'est pour ça qu'il encaisse pas les charges. Non, il y a pas que ça. Et c'est beaucoup plus large que ça, tu le sais autant que moi. Mais malgré tout, il y a plein de petits lièvres comme ça qu'on a levé où tu te dis, putain, faut être humble parce qu'il a de tels antécédents que, le meilleur exemple, c'est que l'an passé, alors qu'on a commencé à le remettre sur les rails, donc il fait une 44-65 si je dis pas de bêtises à Paris avec une séance P dans les jambes, donc c'est qu'on a quand même pas dû faire trop de conneries avant. Et la séance P il l'a fait à 3 jours de Paris parce qu'on s'est dit bah c'est maintenant ou jamais, si on va faire les minima ensuite on aura aucune autre occasion. Et une semaine après il y a les France où tu dois juste conforter ton état de forme pour partir au championnat du monde, et il se fait une désinsertion partielle de l'ischio. Donc bon, bref, tu vois, ça te fait prendre du recul sur tout ça, et on est aussi très dépendant de son passif, de ses passifs, mais c'est ce qui est challengeant aussi. Et ce qui est cool aussi, c'est que, Pierre avait décidé d'arrêter sa carrière après Tokyo, où c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez lui. Au niveau psycho, ça a été très compliqué après. Donc c'est le fameux Brian qui l'a relancé. et qui lui a mis des coups de pied aux fesses pour bien lui faire comprendre que lui, en tant que start-upper qui en chie depuis plusieurs années, verser un salaire, malgré que tout le monde dise que son idée, c'est une idée de génie et que ça plaise aux gens, bah, que ce serait peut-être bien qu'il aille au bout de l'histoire parce qu'il n'était peut-être pas arrivé au bout. Et du coup, ce qu'il y a de cool, c'est que d'un côté, j'ai les clés du camion avec Alain et d'autres. Et d'un autre côté, le seul truc qu'il vise, c'est d'être champion olympique parce que finalement, dans sa tête, il n'y a rien d'autre qui peut l'intéresser. Les Jeux, il y a déjà été trois fois. Les médailles, je pense que tu maîtrises un peu. Voilà, c'est un mec qui a quand même fait... il n'a pas loupé une finale internationale entre 2012 et 2018, si je ne dis pas de bêtises.
Ok.
Et 2019 et 2021, il fait demi-finale, donc ça va, c'est pas non plus... je pense qu'un mec serait content de faire demi-finale.
C'est clair.
Donc voilà.
C'est ouf. Et Adèle, alors, on en a parlé aussi un peu au fur et à mesure du podcast. Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'inspirent?
Qui m'inspirent, oui, il y en a beaucoup. Après, des mentors, bon, voilà, je l'ai déjà beaucoup dit, mais... Même si on se voit plus beaucoup maintenant, les gens qui me connaissent le sauront, je vais pas me cacher sur le fait que Yann a été une énorme source d'inspiration. Parce que déjà, je pense que même si on n'est pas les mêmes, on se ressemble beaucoup dans notre façon de travailler, de voir les choses, déjà avant tout humainement, et dans le travail. Donc Yann, tu le mets en first, très clairement. Et après, Christophe l'a aussi été, hein, mon autre directeur de thèse, mais sur d'autres aspects, c'est quelqu'un d'ultra exigeant et bon, Yann l'est aussi, hein, évidemment. Mais Yann est plus dans la force de travail, et Christophe l'est plus dans l'ultra exigence où quand il écrit ton premier article scientifique, tant qu'il y a un truc rouge, il te le renverra, donc ça peut durer longtemps. Mais voilà, et après, sinon, oui, je vais pas tous te les citer, mais voilà, quand je te parle de gens comme Martin, comme JB et plein d'autres, ça reste des sources d'inspiration où je pense qu'on n'est pas les mêmes, très clairement, parce que on n'a pas les mêmes chemins, qu'on n'a pas les mêmes profils, mais je pense qu'il y a des choses à prendre chez eux. Et à l'inverse, ils diraient peut-être, tiens, j'ai envie de prendre des choses chez Anel, mais pas d'autres choses, parce que ça me plaît pas ou ça me ressemble pas. Mais par contre, pour te dire la vérité, enfin, tu m'aurais posé la question il y a quelques années, je pense que je t'aurais fait une liste, une petite liste de courses. Plus ça va, moins je peux te dire, ouais, j'ai des vrais mentors. Et de plus en plus, finalement, j'aurais tendance à penser, mais c'est pas une question que je me pose en me levant le matin, hein, mais que mes mentors sont plus dans des choses hors sport. Mais je sais pas si c'est des mentors, mais en tout cas des gens qui me... Comment dire qui sont des sources d'inspiration. Donc je sais pas, tu vois... récemment, je regardais des interviews, des podcasts de DJ Snake, de Damso, de Lompal, enfin, tu vois, des trucs qui rien à voir, des chanteurs. C'est des mecs, tu vois, ils sont partis de rien, ils ont galéré, c'est des gros charbonneurs, et je pourrais t'en citer dans d'autres secteurs, et tout ça pour te dire que, je pense que nous, ce qui nous passionne, c'est le sport, c'est la performance, mais encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres choses à aller choper ailleurs. Dans, je sais pas, la capacité de travail, la capacité à gérer le stress, dans la capacité à se développer, dans la capacité à travailler avec d'autres personnes, de travailler dans des équipes. Après, comme pour les charges d'entraînement, step by step et les choses dans l'ordre. Tu vois, si tu as des étudiants ou des jeunes professionnels qui nous écoutent, ils peuvent s'inspirer d'autres personnes. Mais à la base, c'est déjà, va lire des articles scientifiques, va regarder des confs, va t'entraîner, va entraîner des gens, suivre des patients si tu es kiné, soit humble, soit travailleur, soit curieux, discute avec tes pairs, prends ce qu'il y a à apprendre, corrige, transforme. Voilà, l'idée, c'est pas de dire va te faire tout ce que tu trouves sur DJ Snake sur YouTube et tu vas être un bon sport scientiste ou un bon kiné, bien entendu. Mais pour autant, voilà, je pense que, je pense qu'on peut tous devenir, on peut tous à terme maîtriser des sujets. C'est juste se cracher dans les pognes et travailler. Pour autant, tu vois, je te donne un exemple. L'an passé, je fais les euros blancs de mes stagiaires. Super promo, franchement, curieux, investi, nickel. Ils font des trucs, tu vois, pour des jeunes prépa physiques, des jeunes kinés, top. Et tous, parce que voilà, on a créé de la proximité, ils sont à l'aise. Quasiment tous, à la fin, c'est putain, mais c'était dur, quoi. J'ai vraiment eu du mal à être prep physique. Alors, ils étaient soit kinés, soit prep physique la plupart du temps, ou coach. Ils avaient un stage de prep physique à faire. C'était dur parce qu'en fait, je commence seulement à avoir l'impression d'avoir des connaissances et des compétences. Et j'arrive pas à ce que les athlètes me suivent surtout. J'arrive pas à ce que le coach y ait un échange qui soit. Je sais pas, tu vois, t'en avais une. L'athlète, il arrivait, c'est l'athlète qui disait ce qu'il avait fait à l'entraînement parce que pour lui, le coach, c'était pas important que le prépa physique le sache. Ouais, du coup, ouais, c'est sûr, ton job, il est dur. Mais pour autant, tu vois, moi, je l'ai plutôt attaqué dans le sens. Je lui ai dit, mais attends, t'as passé un an avec lui. Moi, je prends le problème dans l'autre sens. Comment t'as pas réussi à trouver le moyen de créer une proximité où vous travaillez un peu plus main dans la main, quoi. Je suis pas sûr que ce soit que sa faute, tu vois. C'est facile de dire l'entraîneur, putain, l'entraîneur, c'est un connard, il m'envoie pas ses planifs. Au bout d'un an, soit c'est vraiment un connard et il vaut mieux arrêter de travailler avec lui. Excuse-moi de parler très, très brutalement comme ça. Soit je pense que, tu vois, encore une fois, il y a peut-être un peu des deux côtés. Et du coup, avec un collègue, on s'est dit, putain, on va ajouter un module à la formation, on va mettre un module où, sans dire, voilà, l'idée, c'est pas de dire, attention, les gars, on a fait des carrières de ouf et on est les meilleurs. Mais, voilà, je pense que si tu prends la liste, Yann, JB, Aurélien et tous les autres, on peut tout, plus ou moins dire que leur carrière, elle est plutôt correcte. Qu'elle est plutôt bien, même s'il y a des moments où il y a des moments compliqués, hein. Ils vont dire ce qu'ils ont envie de te dire, mais dans l'ensemble, ça va toujours dans le bon sens, tu vois. Et pour autant, je suis pas sûr que sur la ligne de départ, ils étaient forcément meilleurs que les autres, en termes de connaissances, de compétences et de niveau, tu vois, sur leurs premières années d'études. Par contre, peut-être que ce qu'ils ont d'autre, c'est savoir s'imbriquer dans un monde où tu travailles avec des humains. On s'est dit, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un module où on essaye un petit peu, un peu en mode, en mode témoignage, partage d'expérience, là où on en a chié. Et comme ça, vous essayez de gagner du temps, les gars et les filles, parce que ça va, sinon, ce sera toujours compliqué si le but, c'est juste de dire, faites-moi une séance de force.
Ah, stylé.
Donc voilà.
À trouver.
Vas-y. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, tu me parlais, je crois que la question, c'était juste sur les mentors. C'était
ouais,
ça.
Ouais. Et après, en termes de livres, sur le sport, où t'as parlé d'artistes que tu suivais, tu sais, est-ce que tu lis des biographies, des autobiographies? Qu'est-ce que tu lis et qu'est-ce qui t'a marqué?
Alors, écoute, t'as plutôt raison dans ta question directement. C'est que, très franchement, je lis très peu de bouquins, on va dire, typés, entraînement, etc. À la fois parce que les journées font que 24 heures, faut être franc et honnête. Je passe déjà beaucoup de temps à lire des articles scientifiques pour ce que je lis. Et finalement, là où tu as raison, c'est que, en tout cas, personnellement, je suis arrivé à un moment de ma carrière où je vais plus aller mettre le nez dans des choses qui sont liées à des parcours de vie. Je sais pas, récemment, je me suis acheté les 4 bouquins d'Alistair McCo et je les ai défoncés. Ils sont beaucoup plus sur le leadership, sur le coaching, etc. Donc pas tant sur le fond scientifique. Et de toute façon, c'est pas ses compétences. Je sais pas, tu vois, tu vas rigoler hein, quand je te parlais de rappeurs juste avant, mais il y a 3 jours, j'écoute un podcast de RMC Foot où ils interviewent le président de l'OM. Donc tu vois, rien à voir. Sauf que ce mec, il me...
Pablo.
Tu vois, j'ai parlé du Sud.
C'est beau.
Mais ce mec, il me... Je sais pas, il me...
C'est crack.
Il m'interloque parce qu'il a une carrière de malade.
Ouais. 35 ans.
Je sais pas que s'il fait tout bien. Hein, et je suis pas là au quotidien et j'en sais rien. Par contre, il a... Enfin, c'est un truc de malade. Le mec, je crois, il est devenu président de l'OM, il a 37 ans. Enfin, c'est improbable. Je me trompe peut-être sur les âges, mais grosso modo, c'est ça. Et du coup, le podcast, il était super intéressant parce qu'en fait, à la base, les intervieweurs, c'était Jérôme Roten, je sais plus qui y avait, enfin Jean-Michel Larquet, enfin tu vois, c'était pas des sciences du sport. Hein. Et en fait, c'était ce qu'il y avait d'assez intéressant, c'était son côté. Tu vois, il a beaucoup été sur la structuration de son équipe, sur réussir à gérer un collectif, des individus dans un collectif, comment, tu vois, après c'est parti sur des trucs qui sont pas mon quotidien mais qui m'intéressent. J'ai, parce que bah typiquement je te prends l'exemple de Pierre, mais c'est même exemple pour l'équipe de vélo. J'ai un budget, il n'est pas extensible, je peux essayer de trouver d'autres budgets, et au milieu de tout ça il faut qu'on arrive à arbitrer et à faire des choix. Donc lui, je t'expliquais ça sur les joueurs, mais c'était un peu la même idée, tu vois. C'est de toute façon je dois faire des montages financiers, j'ai un budget, il faut que j'essaie, que je sais que ça, je sais que je pourrais pas avoir Messi, Mbappé et compagnie, mais il faut que je monte la mayonnaise la meilleure possible. Bah, moi, quand t'as 3 mois d'un Tour de France, on me dit, Anel, quel choix on fait sur la récup alors qu'on a peu de moyens? Bah, je vais pas pouvoir dire, alors, on va faire bain froid, cryo, on va manger 3 étoiles tous les jours, et on veut les meilleurs matelas. Bah, non, dans le budget, ça rentre pas. Et en même temps, et en plus de ça, il va falloir que j'arrive à trouver ce qui se justifie, qui rentre dans le budget, qui semble être le plus opportun possible et qui en même temps sera accepté des gens qui seront autour de France alors que je n'y serai pas. Donc ils vont accepter par exemple de déplacer un matelas entre chaque hôtel.
Ouais.
Bref. Donc voilà, et après c'est une anecdote qui va te faire rire. Quand j'ai soutenu ma thèse, donc ça date maintenant, donc tu sais c'est ton encadrant qui a la parole en dernier, donc c'était Yann. Et le jury juste avant me fait des commentaires très sympas. Donc du coup, comme il y a des commentaires sympas, Yann il doit se dire bah c'est bon, maintenant je peux le défoncer, on s'en fout. Et il sort bah moi ce que j'aimerais pour ton après-thèse, Anel, c'est que tu lises un peu moins l'équipe et que tu lises plus d'articles scientifiques. Et je lis toujours autant l'équipe, même si j'arrive plus à le lire en entier avec le temps qui devient trop cher, surtout en étant papa. Mais pour autant, je pense qu'il y a, t'as forcément, comme ça devient un job qui se démocratise, je pense qu'il y a plein de jeunes stapsiens qui se disent, moi, j'aimerais bien faire de la data, j'aimerais bien être sport scientist, j'aimerais bien être prep physique, mais avec une casquette, spécifique, etc. Ou même les kinés, hein. Je sais qu'il y a de plus en plus de kinés qui veulent se spécialiser dans des structures, etc. Bah, pour moi, tu vois, cet exemple, c'est un peu retombé sur ce que je t'ai dit quasiment pendant je crois que ça fait 1 heure qu'on parle. Peut-être même plus. Je pense que c'est important de pas être que spécialiste, mais d'être intéressé par, enfin, en fait, déjà de kiffer le sport, de kiffer faire du sport. Tu vois, à un moment donné, si le jour où tu mets un pied en stade parce que soi-disant tu devrais travailler pour être le meilleur, tu vas plus soulever une barre de squat et puis faire un footing, bah, je pense que c'est pas une bonne chose. Comme tu l'as dit, tu pars d'un sport à un autre ou quoi que ce soit, et que tu vois, si tu fais juste une analyse au travers des articles scientifiques et au travers de data,
tu passes à côté.
Je me demande à voir sur le long terme. Je pense que c'est quand même important que quand tu vas devoir parler avec les gens de terrain, ça matche un peu, quoi. Donc moi, je te donne l'exemple de l'équipe. C'est peut-être pas le seul et c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense qu'il y a un compromis à trouver là-dedans. C'est bien de vouloir tout lire, c'est bien de vouloir tout comprendre, mais des fois, il faudrait peut-être mieux comprendre un tout petit peu moins bien certains trucs très poussés. Alors là, je pousse le bouchon parce que je pense pas ce que je dis, mais en tout cas, d'être plus curieux de ce dans quoi on travaille et des gens avec qui on travaille.
Top, top. Anaël, où c'est qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce qu'il y a un réseau où tu es le plus actif ou le plus, entre guillemets, disponible pour des questions?
Sur n'importe lequel, j'aurais tendance à dire. Je suis pas une machine des réseaux, donc souvent, quand je publie sur un, je publie sur tous. Et c'est peut-être pas la bonne chose. Mais non, vous tapez Anaël Aubry, Aubry Anaël sur les classiques Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai dû en oublier. Je suis sur TikTok depuis peu. C'est énorme.
Stylé.
Je me suis mis sur TikTok. C'est à cause de Pierre-Ambroise Boss. C'est horrible. Je pensais jamais m'y mettre. Et en fait, j'ai découvert que les jeunes, maintenant, il faut leur parler sur TikTok. Donc j'essaye de vulgariser sur TikTok depuis 2 semaines. Pour l'instant, je suis très nul.
Non, c'est bien, non, c'est bien, c'est bien.
Je sais même pas si on peut faire un message frais sur TikTok. Mais, bref. Et, je sais même plus si je t'ai oublié Twitter. Mais, voilà, vous m'écrivez un message privé, il n'y a pas de souci. Je réponds toujours. Des fois, je mets beaucoup de temps. Et parfois, j'oublie. Donc, mais par contre, je réponds toujours. Parce que des fois, je fais un petit update de tiens, il faudrait que j'aille voir parce que je sais que j'ai du retard. Mais n'hésitez pas, enfin, s'il y a des gens qui, je sais pas, qui sont de jeunes étudiants ou quoi, qui ont des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Juste soyez bienveillants. Mes journées sont trop courtes. Et quand je reçois un message sur les réseaux, je me dis next, je ferai ça un jour où j'aurai envie de rien faire dans le train. C'est déjà ce qui arrive rarement parce que souvent c'est le moment où je bosse le mieux. Ou en attendant le train, j'en sais rien. Donc bref, n'hésitez pas à me relancer, c'est ça que je voulais dire, mais de façon bienveillante. Et souvent, quand il y a une relance, ça m'oblige à répondre direct.
Voilà. Top, top, parfait. Anaël, merci beaucoup.
Bah, merci à toi. Merci de faire vivre ton podcast qui, je pense, est l'un de ceux que j'ai le plus écouté. Très franchement, très honnêtement.
C'est cool.
Pas juste parce qu'il y a des amis, hein, parce que... encore une fois, je trouve que t'es assez bon pour. Alors c'est horrible parce que du coup tu m'as invité, mais t'es assez bon pour faire venir des gens qui, je trouve, sont intéressants et aussi nous font aller creuser des sujets qu'on peut-être on maîtrise moins. Donc finalement, ceux que j'ai le plus écouté au-delà des potes, ça va être souvent des sujets qui moi me rendent curieux et c'est cool. Donc merci pour ça, c'est top.
Top, top. Eh ben à la prochaine en tout cas.
Ça marche, avec plaisir. Salut.
Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.